Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Nous commémorons cette année le 800e anniversaire de la fondation de l'ordre franciscain. Après le succès dans les années 70 et 80 du totum, le totum qui rassemblait les sources contenant les écrits de saint François d'Assise et de ses compagnons, les éditions du Cerf et les éditions franciscaines nous proposent aujourd'hui une refonte et finalement une nouvelle édition de ces fameuses sources, les sources franciscaines. Travail monumental de traduction, travail parfois inédit, travail aussi d'interprétation, de référencement, d'indexation et de commentaire. L'ensemble de ces éditions n'en reste pas moins à la portée de beaucoup. Historiens, en quête de textes séculiers ou laïcs, en quête de spiritualité, religieux, en quête d'exempla. Quoi qu'il en soit, les textes des sources franciscaines offrent une admirable illustration des racines chrétiennes de l'Europe à une époque, un des sommets des temps médiévaux. Le succès de l'œuvre de saint François, également appelé le Poverello, révèle aussi l'extraordinaire rayonnement d'un ordre qui, tranquillement et dignement, fête son 800e anniversaire. Jacques Dallarin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes docteur en histoire médiévale, agrégé de l'université, directeur de recherche au CNRS depuis 1997. Vous êtes un grand spécialiste de l'histoire religieuse. Vous avez beaucoup travaillé avec André Vaucher, qui est membre de l'Institut, et vous êtes vous-même correspondant de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Et alors, vous dirigez ces sources franciscaines, donc, qui viennent d'être rééditées, nous le disions avant cette émission, qui ont bénéficié d'une refonte totale. Alors, c'est aux éditions du Cerf. Il y a plusieurs livres qui sortent en ce moment. Il y a tout d'abord « À l'origine des Fioriti », les actes du bienheureux saint François et de ses compagnons, donc Sources franciscaines, collection Sources franciscaines aux éditions du Cerf et aux éditions franciscaines, et dans la même collection et chez les mêmes éditeurs, Lévi de saint François d'Assise. Alors, si vous le voulez bien, Jacques Dallarin, pour les personnes qui connaissent peu l'histoire religieuse, revenir 800 ans en arrière et partir à la découverte de ce saint qui marque l'histoire religieuse, qui fait partie des plus grands saints de l'histoire du christianisme. Qui fut saint François d'Assise ?
La première de ses vies commence comme ça. Il était un homme dans la cité d'Assise. Donc c'est un Italien, un Ombrien, qui vient de cette petite cité à l'époque d'Assise. Son père y est marchand, c'est-à-dire certainement quelqu'un qui s'adonne à un commerce d'assez large échelle, et lui-même commence dans la même carrière. Il est marchand, c'est un habile négociateur, nous dit son premier biographe, ce qui d'emblée dissipe déjà toutes les images pieuses d'un François ravi et somme toute un peu ingénu. Comme fils de marchand, son rêve, c'est non seulement de reprendre les affaires de son père, mais surtout de s'élever jusqu'à la chevalerie. L'idéologie chevaleresque est dominante dans les cités italiennes, quand bien même nous y lisons, nous, l'essor de la bourgeoisie.
Nous sommes à la fin du XIIe siècle.
Il est né vers 1181, donc il a 20 ans au tournant des 12e et 13e siècles. Et cet argent qu'il gagne avec les affaires de son père, il le dépense très largement, puisque la largesse est la vertu par excellence des chevaliers. C'est une manière d'essayer de s'intégrer à la classe sociale supérieure. Et puis arrive un moment où cette vie ne lui convient plus. Le récit de sa conversion est évidemment très différent selon les vies que nous possédons, ou bien même selon sa seule autobiographie très allusive qu'est le testament écrit dans les derniers jours avant sa mort. En tout cas, il arrive un moment où les valeurs du siècle ne lui conviennent plus. Et cette recherche de la chevalerie qu'il avait portée jusque-là, au fond, il la retourne, c'est le sens même de conversion, dans une recherche de la seule chevalerie qui vaille, celle du seul roi qui vaut, le roi des rois.
Donc le Christ, c'est une conversion soudaine ou il y a une progression spirituelle chez ce personnage ?
Dans ce que nous raconte le premier de ses biographes, Thomas de Celano, dont nous venons de rééditer toutes les vies, puisqu'il a écrit 4 à 5 récits sur François d'Assise, la conversion est présentée de manière lente. On a le sentiment un peu de la chrysalide, si vous voulez, dont le papillon va se libérer progressivement, presque comme l'incubation d'une maladie salutaire. Ça prend du temps, jusqu'au moment où toutes les valeurs qui étaient les siennes, celles de l'argent, celles du paraître, vont se retourner en pauvreté, en humilité.
Alors, c'est une époque, nous sommes à un des sommets, je le disais en introduction, à un des sommets des temps médiévaux. C'est une époque où se développe beaucoup le monachisme.
Vous savez, le monachisme, c'est pour ainsi dire consubstantiel au Moyen-Âge. Dès la fin de l'Antiquité tardive, le monachisme était déjà très implanté en Orient comme en Occident chrétien. Je dirais qu'à la fin du XIIe siècle, c'est même la plus grande saison du monachisme qui est en train de se terminer. Et avec François d'Assise comme avec Dominique, qui sont strictement contemporains, c'est une nouvelle époque qui s'ouvre, celle que l'on a appelée des ordres nouveaux, ce que l'on appelle aussi les mendiants, qui, à la différence des moines qui vivaient reclus dans le cloître, sont des hommes de plein vent, des hommes d'itinérance et des hommes des villes. C'est pour ça que je me permettrai de dire que François n'est pas tout à fait aux racines chrétiennes de l'Europe, si tant est que l'expression ait un sens, dans la mesure où c'est un homme qui n'a pas de racines parce qu'il est tout le temps en marche. Donc il n'est attaché à rien et c'est bien là son projet.
Nous sommes en 1209, il y a très exactement 800 ans, et se crée ce qui deviendra plus tard l'ordre franciscain. Comment devient-on fondateur d'un ordre à cette époque?
Alors, vous savez, la première chose qu'il faut interroger, c'est la manière dont les historiens déterminent les anniversaires. D'abord, la date de 1209, à quoi est-ce que ça correspond? François, converti, dans les années qui suivent, attire autour de lui une douzaine de compagnons. Le chiffre est évidemment symbolique, c'est celui des 12 apôtres. Et ces 12 hommes, François y compris, ce qui prouve qu'il n'était pas un nouveau Christ, mais un parmi les apôtres, à la suite du Christ, ces 12 hommes, nous disent les légendes toujours, se dirigent vers Rome, forcent la porte du pape Innocent III et obtiennent de lui une approbation orale du mode de vie très succinct et totalement évangélique qu'ils avaient conçu probablement sous la direction de François. L'événement a-t-il eu bien lieu en 1209? Je n'entrerai pas dans les détails, mais enfin, disons que ça procède d'une péréquation complexe et qu'on pourrait en discuter. Quant à dire que cet événement, qui certainement a eu lieu, même si on peut douter à un ou deux ans près de sa datation, mais quant à dire que cet événement a été la fondation d'un ordre religieux, non. Il faut choisir, si vous voulez, un repère symbolique. 1209, c'est cela. C'est la première fois que François se trouve devant le pape et qu'il reçoit, même si nous n'en avons pas de traces, une approbation orale du mode de vie qu'il avait conçu avec ses frères. Pour l'instant, le terme d'ordre n'a aucune pertinence. Il s'agit d'une fraternité de pénitents vivant dans la plus grande observance évangélique. Pour vous donner un autre repère, le terme d'ordre n'apparaîtra vraiment dans les documents issus de la papauté qu'à la fin de la décennie 1210, entre 1210 et 1220. Jusque-là, il n'était pas question d'ordre, mais de religion de François et de ses frères. Donc vous voyez, le souvenir a tendance à télescoper parfois les événements et à tenir pour acquis ce qui est en germe encore.
Dans votre propos, je retiens les deux termes d'observance évangélique. Que signifie cette observance évangélique? Parce que c'est-à-dire, l'évangile peut être interprété de plusieurs façons. Il y aura d'ailleurs, après la mort de saint François, des conflits, notamment sur la question de la pauvreté, de la propriété. Quelle est la conception évangélique de saint François d'Assise?
C'est bel et bien le cœur de la question. Et vous citiez tout à l'heure les travaux d'André Vaucher, il a effectivement écrit des articles remarquables sur la perception de l'évangile par François, de même qu'un autre grand maître italien, celui-ci Giovanni Miccoli. Oui, le projet de François d'Assise est un projet évangélique. J'essaie de me le représenter de la manière suivante, en lisant les sources et en les relisant. François, dans un premier temps, est un jeune homme fasciné par la puissance. La puissance de l'argent, la puissance du prestige chevaleresque, la puissance des armes. Et ce choc de la découverte évangélique dont nous parlions tout à l'heure, c'est au fond la stupéfaction de voir que celui qui avait toutes les puissances à sa disposition, les pleins pouvoirs, Dieu, n'a pas hésité à descendre du ciel, d'où il dominait la terre, le temps, pour prendre la condition humaine, dans un mouvement d'abaissement dont François ne se remet pas. Si vous voulez, lorsqu'on lit alors en particulier les écrits de François, qui eux témoignent vraiment à la source de sa spiritualité, ils sont entièrement pétris de cette stupeur dont il ne se remet pas. Que le Très-Haut se soit fait le Très-Bas. Cette abdication totale de la puissance. Et donc, lorsque l'on parle de la pauvreté de François, il serait plus juste de dire que c'est une dépossession, un dénuement, qui est souvent même symbolisé, vous le savez, par la dénudation, par la nudité. Le geste de François au moment de sa conversion, je dirais spectaculaire, visible devant les hommes, c'est d'enlever tous ses habits devant l'évêque pour montrer qu'il ne doit plus rien à son père, qu'il ne doit plus rien au monde, jusqu'à ce que l'évêque le recouvre dans son manteau, ce qui est à la fois un geste spirituel et un geste juridique, c'est-à-dire qu'il passe sous le fort ecclésiastique, sous le contrôle, sous la juridiction de l'évêque. Mais voilà, si vous voulez, je crois que la recherche évangélique de François procède entièrement de cette stupéfaction de l'incarnation. Et deuxième stupeur dans la stupeur, c'est que cette incarnation est débouchée sur la passion. De Noël à la croix, voilà les deux grands pôles de méditation de François. Toutes les valeurs, toutes les vertus franciscaines en découlent. C'est-à-dire que toutes les vertus franciscaines sont incarnées. Elles ne sont pas des valeurs morales dans l'absolu, elles sont une histoire. Elles sont l'histoire du Christ qui, venant dans le ventre de sa mère, s'est fait le plus pauvre des hommes. Et la notion de la pauvreté qu'a François est totalement sociale, car il ne s'agit pas d'une pauvreté rêvée ou d'une pauvreté symbolique. Il faut aller avec les plus pauvres du monde, il faut partager leur vie. Mais elle est totalement théologique, d'une théologie extrêmement simple, d'une théologie vécue.
Mais alors, faut-il, après cette stupéfaction, quel comportement religieux, existe-t-il une évangélisation franciscaine, un apostolat franciscain, ou doit-on finalement s'abîmer dans la, entre guillemets, dans la contemplation ?
C'est une question que s'est exactement posée François. Vie active ou vie contemplative ? Il opte, comme la plupart d'ailleurs des ordres réformés ou créés depuis la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle, il opte pour ce qu'on appelle une vie mixte, une vie double, c'est-à-dire à la fois la contemplation et l'action, la contemplation étant le ressourcement nécessaire pour se relancer dans l'action. Mais il y a, toujours dans la première légende de François d'Assise, l'exposé de ce dilemme, la mise en scène de ce dilemme, et François conclut en disant « Ma vocation n'est pas de me sauver moi-même, mais de sauver les autres ». Donc sa pénitence est une dynamique qui entraîne autrui, d'abord les premiers compagnons, puis de plus en plus de frères, puisqu'à la fin de sa vie, ils sont, selon les chiffres dont nous disposons, de 3 à 5 000. Et puis l'ensemble des fidèles qui, même sans se convertir à son mode de vie religieux, l'entendent et se convertissent de cœur.
Alors, quel est le quotidien de cette communauté, de cette fraternité, c'est le mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Quel est le quotidien ? Que devient le quotidien de cette communauté ?
Là, il faut distinguer des étapes. Tant que les frères sont peu nombreux, on les appelle encore les compagnons, ils sont dans une même société, hein, les socii de François, les compagnons de François, ils sont en petit nombre, ils brûlent de ce désir évangélique, et je dirais qu'au fond, les choses sont simples. Vivre dans le respect absolu des préceptes évangéliques seul ou à 12, c'est jouable. Leur vie à ce moment-là, et la vie est une vie itinérante, si je devais la qualifier socialement, ce serait celle des travailleurs journaliers itinérants. Donc leur habitat est le même, des huttes de branchage, des baraques, des cabanes. Et ils vont de place en place, aidant aux travaux des champs, se faisant donner de la nourriture et donnant le surplus à plus pauvres qu'eux. S'ils voient quelqu'un de dévêtu, ils leur donnent leurs vêtements. Voilà, c'est donc une vie de totale transparence avec la condition humaine la plus démunie. C'est un mouvement qu'on connaît bien au Moyen-Âge, c'est-à-dire que toute personne qui est une sorte d'icône évangélique inévitablement attire les foules autour de lui. Et c'est ce qui se produit pour François. Donc je parlais de ce passage de 12 à 5 000, qui est à la fois un succès extraordinaire, mais qui est en même temps la racine de ce que l'on a parfois appelé le drame de François, son écartèlement. Parce qu'à 3 ou 5 000, vivre la vie évangélique, ça devient très difficile. Si vous arrivez à 12 dans une cité, vous pouvez vivre du surplus que les habitants, que la charité des habitants vous dispense. Mais si vous décidez de tenir un chapitre de ce début d'ordre et que vous arrivez à 3 000 dans une ville, vous la ruinez. Donc voilà, si vous voulez, le problème de François, c'est le nombre. Mais c'est en même temps une parabole magnifique sur qu'est-ce qu'une institution humaine ? Hors d'une institution, l'intuition humaine ne dure pas. Et quand il y a institution, il y a déperdition d'une partie de l'intuition. C'est cet équilibre, si vous voulez, si difficile à trouver, que François vit non pas comme un équilibre, mais comme une tension.
Une tension, mais est-ce que cette tension est apaisée, j'allais dire, par la vertu d'espérance ?
Elle est apaisée à coup sûr par l'espérance, la certitude que, quelles que soient les difficultés qu'il ait affrontées, c'est Dieu qui a voulu cela. Et François le dit à longueur de son testament, je ne crois pas qu'il le dise avec orgueil, je pense qu'il le dit au contraire avec la notion d'une responsabilité très lourde qui lui est tombée sur les épaules. Donc oui, il se sent cette mission, il est plein d'espérance d'entraîner autrui au salut, et enfin, à certains moments de sa vie, il est très grave, mais à d'autres, il exulte de joie. On a un certain nombre de très beaux passages dans les légendes, mais qui correspondent en même temps à ce que l'on sait des écrits, par exemple au Cantique de Frère Soleil, qui est un chant de joie merveilleux. On a un certain nombre d'exemples de moments de la vie de François où, tout à coup, saisi de joie et d'admiration et de gratitude pour le Créateur, il se met à chanter en français. Et il ne s'arrête ni à la langue ni au chant, mais son corps entier se met en mouvement et il danse. Voilà, c'est la joie franciscaine. La joie franciscaine devant le don de la création.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et Un jour dans l'histoire reçoit Jacques Dallarin, correspondant de l'Institut et directeur de la collection Les sources franciscaines parues aux éditions du Cerf et aux éditions donc franciscaines qui viennent d'éditer, de refondre les vies de Saint François d'Assise, les actes aussi du bienheureux François et de ses compagnons. Nous nous retrouvons dans un instant.
Le photographe Yann Arthus Bertrand de l'Académie des Beaux-Arts se livre au micro de Canal Academy. Retrouvez-le dans notre émission En habit vert. Il évoque son parcours et les projets de son association Good Planet au service de la défense de l'environnement. Téléchargez également sur notre site l'installation de Yann Arthus Bertrand sous la coupole et découvrez en fin d'émission les détails de son épée originale. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademy.com.
Nous reprenons le cours de notre émission. J'ai l'honneur de recevoir Jacques Dallarin, correspondant de l'Institut. Jacques Dallarin, vous êtes historien, spécialiste d'histoire médiévale et notamment et surtout d'histoire religieuse. Et vous dirigez donc la collection des sources franciscaines aux éditions du Cerf et aux éditions franciscaines. Alors, nous avons laissé nos auditeurs sur l'idée de joie. Je voudrais que vous répondiez sur une dernière question à propos de la vie de Saint François, ou en tous les cas de ce qu'il est, avant de découvrir l'extraordinaire histoire des éditions des sources franciscaines. Est-ce qu'on peut dire que Saint François était un théologien, puisque dans la description que vous faites, on a l'impression, en tous les cas, qu'il n'y a pas de place pour l'intellectualisme ou l'intellect tout court. Est-ce que on peut faire de Saint François un théologien et à ce titre un exemple sur lequel on peut réfléchir?
Alors, si j'ai donné l'impression que François n'était pas du tout un intellectuel, oui, il y a du vrai, mais j'aurais aussi peur d'avoir dit une bêtise. François n'est pas un théologien au sens professionnel. Il n'a pas les diplômes, et d'ailleurs, au moment où il vit sa propre formation, l'université n'existe pas, les grades en théologie n'existent pas. C'est dans les années 1210-1220 que cela va commencer à Paris. Donc il n'a pas eu l'occasion d'être théologien avec le label allant avec ce titre et cette compétence. il n'est pas non plus un auteur comme le sont les auteurs monastiques, comme un Bernard de Clairvaux un siècle auparavant. Il ne faut pas essayer de faire de François ce qu'il n'est pas. C'est un homme d'une culture élémentaire, pas rudimentaire, élémentaire, c'est-à-dire qu'il pratique fort bien l'italien. Il est un des premiers auteurs de langue italienne qui ait laissé un texte, le Cantique de Frère Soleil. Il pratique le français, qui est à ce moment-là la langue littéraire dans les milieux laïcs d'Italie. Et il sait suffisamment de latin pour écrire 2-3 autographes de sa main, d'un latin discutable. Mais lorsqu'il dicte ses textes et qu'un frère prend le soin de mettre le latin dans une meilleure forme, ce sont des textes d'une très très grande tenue. En tout cas, quel que soit son niveau de langue, sa pensée est d'une extraordinaire clarté, d'une extraordinaire cohérence. C'est un homme qui n'a pas une formation d'intellectuel, mais qui est d'une extrême intelligence. Il a l'intelligence à la fois de l'esprit et du cœur. Et ce qui est très frappant lorsqu'on lit ses écrits, alors qu'une partie, je le disais, a été rédigée de sa main, et la partie la plus infime, et une partie très importante, a été rédigée de manière indirecte par ses secrétaires, la tension de sa pensée est constamment la même. Si vous prenez un thème, par exemple, comme l'Eucharistie, on verra que d'un écrit à l'autre, il y a une densité et une continuité de la pensée de François qui est absolument admirable. Bien évidemment, François donne à penser, François donne à réfléchir, et je dirais qu'il donne cela sans la gangue de la dissertation du traité académique. Et donc, c'est quelqu'un qui donne à réfléchir à la fois par ses écrits et par sa vie, puisque pour lui, les actes valent mieux que les mots.
Ce n'est pas une spiritualité du simple.
Vous savez, le terme de simple au Moyen-Âge, ça désigne avant tout un degré culturel, les gens qui ne savent pas le latin. Ça veut tout dire, sauf des imbéciles. Ça veut dire, dans le cas de François, quelqu'un, je vous le disais, qui a une pénétration extraordinaire de la foi chrétienne, et qui en particulier, et cela aussi André Vaucher l'avait remarquablement montré, arrive à se tenir constamment sur le fil pour ne jamais tomber en péril d'hérésie. C'est à ce moment-là un danger réel, on est au début du XIIIe siècle, la question se pose. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que redisant avec ces mots de simple les canons de la foi, de la doctrine chrétienne, François ne commet jamais le moindre faux pas. Il a une fantastique intuition de l'orthodoxie.
Beaucoup de bon sens.
Du bon sens et une exigence extrême de la pensée. C'est-à-dire, il ne s'arrête pas en chemin, il ne s'arrête pas à une dévotion facile. Il va au bout, c'est un excessif, c'est un radical.
Alors, précisément, l'objet de cette émission est vraiment de mettre en valeur les textes de Saint François et de ses compagnons, et l'histoire même de Saint François. Et alors, je le disais en introduction, dans les années 70 et 80, il y a eu ce qu'on a appelé les sources franciscaines, et les sources franciscaines ont remporté un succès certain. Il y a eu, de la part des éditions du Cerf, une volonté de refondre ces sources et de les remettre en quelque sorte au goût du jour.
Alors, pour l'historique, la première édition des sources franciscaines traduites en français sous la direction des pères Desbonnet et Voreux est sortie en 1968. C'est ce petit livre que j'ai toujours avec moi, ce petit livre bleu paru en 68 et qui, s'il n'est pas le livre rouge, a été une véritable révolution démocratique. Car c'est la première fois que les non-spécialistes avaient à leur disposition l'ensemble du corpus des sources primitives franciscaines, écrits de François. Un siècle de légende, un siècle de mémoire franciscaine, témoignage extérieur ou interne à l'ordre, c'est la première fois que cet ensemble extraordinaire était à disposition de tout lecteur dans une langue moderne. Et nos deux pères français, les pères Desbonnet et Voreux, ont été les premiers dans le monde à lancer ce type d'initiative, qui a évidemment ensuite été repris dans la plupart des pays, dans la plupart des langues. Mais je crois qu'il faut saluer le travail pionnier qu'ils avaient fait, et ce sont donc les éditions franciscaines qui avaient publié ce premier volume.
C'est le fameux totum dont je parlais.
C'est ce que nous appelons le totum, voilà, le petit livre bleu. Lorsqu'il y a 4 ans, le directeur des éditions franciscaines s'est demandé s'il convenait de réimprimer ou de rafraîchir le totum, les spécialistes qu'il a eu la gentillesse de consulter lui ont tous fait la même réponse. Soit on réimprime, parce que c'est un très beau livre, Soit on doit le refaire totalement, mais on ne peut pas le rafraîchir. Parce que la recherche a progressé de telle sorte que c'est non seulement le détail de chaque traduction qu'il faut reprendre, mais ce sont de nouveaux textes qu'il faut ajouter, ce sont des datations nouvelles, c'est la structure, ce sont les introductions, ce sont les annotations. Donc, c'était tout ou rien, et nous avons choisi tout, c'est-à-dire de tout refondre. Les éditions du Cerf se sont alors associées aux éditions franciscaines, c'est donc une coédition, mais dans la continuité de ce que les éditions franciscaines avaient déjà fait dès 1968, et encore une fois de manière absolument pionnière dans le monde.
Alors le premier aspect, la première qualité de cette réédition, c'est le choix de texte tout d'abord qui est beaucoup plus important.
Nous allons passer de 1500 à 3000 pages. Alors la quantité n'est pas tout, mais disons que par rapport à la sélection qu'avaient opérée les pères Desbonnet et Voreux, par rapport aussi à l'émergence de nouvelles sources qui ont été découvertes entre-temps, on a tendance à oublier qu'on peut découvrir encore bien des choses sur le Moyen-Âge, il nous a semblé nécessaire de donner au lecteur une image actualisée et fidèle des témoignages dont nous disposons à l'heure actuelle. C'est donc un doublement du volume. Il fallait aussi, je vous le disais, remodeler la structure, ne serait-ce que pour reclasser chronologiquement les légendes. Il fallait retraduire ces textes parce que nous ne traduisons plus dans ce 21e siècle le latin médiéval comme nous le traduisions au deuxième tiers du 20e siècle.
C'est très important, vous le rendez plus accessible ?
Plus accessible, je l'espère. J'espère que nous le rendons plus accessible à nos contemporains en étant beaucoup plus proche du texte latin. On avait tendance encore dans les années 60, quand ces textes ont été traduits une première fois, à faire un bel exercice de style qui produisait souvent de très beaux textes, mais qui étaient aussi de belles infidèles. Les principes qui sont les nôtres, l'équipe de traducteurs avec laquelle j'ai le plaisir de travailler, les principes qui sont les nôtres, c'est si le texte est de facture médiocre en latin, il doit être de facture médiocre en français. Si le texte est d'une extraordinaire beauté en latin, nous devons tenter d'atteindre cette beauté en français. Le même mot doit être, dans toute la mesure du possible, traduit régulièrement de la même manière. Tenez, prenez l'exemple que nous disions tout à l'heure, fraternité, religion, ordre. Si vous projetez le terme d'ordre dès les débuts de l'histoire, vous ne comprenez plus rien à l'évolution. Si vous dites de la chapelle de Saint-Damien que c'est une chapelle et non pas une église, comme le dit le texte latin, alors vous ne comprenez plus que par cette restauration, François préfigure la restauration de l'église avec un E majuscule.
Oui, vous donnez d'autres exemples. La Civitas est une cité, non pas une ville. Il y a vraiment ce respect de ce latin. Donc, il y a un premier livre, Les Vies de Saint François d'Assise, qui est un livre très important, qui fait plus de 800 pages, mais qui est divisé au fond en plusieurs. Il y a plusieurs vies de Saint François.
Alors, si vous voulez, le projet éditorial est celui-là. Donner d'ici la fin de l'année 2009 la quasi-intégralité des sources franciscaines disponibles en traduction française, ce sera un énorme volume ou deux volumes, peu importe, mais en tout cas la quantité sera autour de 3000 pages. Comme en avant-première, comme des petits cailloux sur ce long chemin, nos éditeurs ont décidé de publier un certain nombre d'extraits de ce volume à venir, les textes qui nous paraissaient mériter d'être publiés comme en apéritif pour donner envie au public de nous suivre et d'arriver jusqu'au plat de résistance. Donc le premier à avoir été publié, c'est les Actes du Bienheureux François, l'automne dernier. Cette semaine même, les Vies de Saint François d'Assise par Thomas de Celano viennent de paraître. Oui, et vous pouvez constater qu'il y a 5 textes successifs, parce que Thomas de Celano, qui a écrit la première vie de François d'Assise, celle que l'on appelle traditionnellement la Vita Prima, au lendemain de la canonisation de François, donc entre 1228 et 1229, n'a cessé par la suite, pendant plus de 20 ans, d'écrire et de réécrire sa vie de François. Et ce que nous donnons donc dans le deuxième volume, Thomas de Celano, Les Vies de François, c'est l'intégralité de l'œuvre de Thomas de Celano, c'est-à-dire ce sont deux hommes face à face. Un François mort que regarde un Thomas de Celano qui vieillit au fur et à mesure de son œuvre et qui se dit « mais comment saisir la vérité de ce diable d'homme ?»
Alors, c'est un travail collectif, je pense qu'il faut rendre hommage à ce groupe de personnes et c'est un groupe international.
C'est un groupe international. D'abord, je veux rendre hommage à nos éditeurs qui nous ont fait une confiance absolument magnifique. Le groupe de traducteurs est d'une très très grande qualité. Les traducteurs sont bien évidemment de langue française, mais nous avons souhaité confier un certain nombre d'introductions à des amis et collègues italiens, américains, de toute nationalité. Au fond, François avait un projet qui était de nature universelle. Et il serait tout de même aberrant que la recherche historique sur François d'Assise se compartimente de manière nationale. Donc, dans ce volume, nous voudrions donner au public français une idée du meilleur de la recherche, non pas seulement en France, mais au niveau international.
Je reprends un peu vos termes, vos mots, dans la présentation de cette nouvelle édition franciscaine, des sources franciscaines. Vous écrivez dans l'introduction générale, qui a donc été confiée à André Vaucher, membre de l'Institut, on montrera qu'entre philologie, histoire et spiritualité, la question franciscaine n'est pas un vain jeu d'érudits, mais qu'elle renvoie à la question que François posa à son siècle et continue à nous poser, née d'une tension entre utopie franciscaine et réalité de l'ordre et de l'Église. Est-ce à dire qu'il y a il y a eu et il y a toujours un conflit entre cette utopie que nous évoquions tout à l'heure, cette tension, et la réalité de l'ordre et de l'Église?
Oui, alors André Vaucher dira tout cela de manière plus détaillée et beaucoup mieux que moi. Ce que nous voudrions montrer par ce volume dans son ensemble, et je pense qu'André Vaucher aura à cœur de souligner dans son introduction, c'est qu'effectivement, on peut présenter la question franciscaine, ce que l'on appelle traditionnellement la question franciscaine, comme une sorte de jeu d'érudition pour démêler la généalogie des témoignages, en particulier des légendes de François. C'est notre obscur travail technique, nous le faisons, mais nous n'avons pas envie d'ennuyer un large public avec ces arguties, qui sont importantes, mais qui sont, disons, les étais du bâtiment et que nous essaierons de rendre le plus léger possible. La vraie question, c'est de savoir pourquoi ce personnage, François d'Assise, ce simple, comme il se définissait lui-même, n'a pas pu être restitué par un unique récit. C'est-à-dire pourquoi tant d'hagiographes, tant d'auteurs ont écrit et réécrit sa vie, et pourquoi même un seul auteur, comme Thomas de Celano, a dû s'y remettre 5 fois. C'est ça le fond du problème. Pourquoi la simplicité de François est-elle si difficile à rendre simplement? Et là, vous voyez bien que si l'on prend les choses de cette manière, la difficulté philologique, technique, celle de la généalogie des légendes, de leur classement, devient en réalité le miroir d'un problème beaucoup plus important, qui est, au fond, qui met François en conformité d'emblée avec son propre modèle, c'est-à-dire le Christ. Le Christ qui n'a pas été rendu par une biographie, mais par 4 officiels et par bien d'autres, les évangiles. Il n'y a pas un unique évangile, il n'y a pas une unique légende de François. Voilà 2 personnages que bien des points rapprochent, et avant tout, la volonté explicite de François de suivre les pas du Christ, mais qui l'un et l'autre ont produit la même réalité philologique, miroir d'une question historique de fond.
Donc les vies de saint François d'Assise, je ne peux qu'inciter nos auditeurs à lire dans la collection des sources franciscaines ces vies de Thomas de Celano. Je voudrais passer à un débat, non pas historiographique, mais là encore de source, que sont l'histoire des fameuses Fioretti. C'est ce que nous allons voir, Jacques Dallarin, après cette deuxième pause. A tout de suite.
Canal Académie dresse le portrait de Balthus en compagnie d'Arnaud d'Autrive, secrétaire perpétuel des Beaux-Arts. Séducteur à la stature imposante, homme simple aimant jouer la comédie, les souvenirs d'Arnaud d'Autrive donnent une image éloignée du personnage parfois mondain que le peintre a incarné, le succès international venu. Téléchargez dès maintenant notre émission Carrefour des Arts consacrée à Balthus sur canalacademie.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Saint-François d'Assise. Nous fêtons le 800e anniversaire de la fondation de l'Ordre, même si nous avons vu qu'il y a des doutes sur la date exacte, mais il y en a toujours à 1 ou 2 années près. Je souhaiterais consacrer cette dernière partie d'émission à un texte inédit. Et pourtant, ce côté inédit est paradoxalement, non pas soumis, mais l'objet d'une controverse. Depuis 1902, visiblement, on pensait avoir un texte correct des Fioretti, qui est le texte le plus connu de Saint-François et des compagnons, et pourtant il ne s'agit pas du bon texte. Que s'est-il passé exactement ?
Alors, il faut prendre les choses un peu à rebours. Le texte qui est probablement le plus connu sur François d'Assise, ce sont les fameux Fioretti, un texte en toscan, dont nous sommes sûrs qu'il est antérieur à 1396, qui est la date de son plus ancien témoin manuscrit. Probablement, il doit dater d'un moment incertain dans la deuxième moitié du XIVe siècle. En tout cas, c'est le creuset de la plupart des images que nous avons de François d'Assise. Or, il y a plus d'un siècle, en 1902, le pasteur protestant Paul Sabatier, qui a vraiment mis le feu aux poudres de la question franciscaine, qui est le créateur de la question franciscaine d'un certain point de vue, a eu la chance et le mérite de découvrir un texte latin qui se présente comme l'ancêtre des Fioretti. Donc, à partir de ce moment-là, on a compris que les Fioretti n'étaient que la traduction italienne d'un texte qui d'ailleurs est plus long, plus copieux, qui n'a pas exactement la même structure et qui, même au niveau micro-rédactionnel, donne un certain nombre de détails qui ont été estompés dans la traduction italienne de la deuxième moitié du XIVe siècle. Ce texte date, lui, de la première moitié du XIVe siècle et les spécialistes le connaissent très bien depuis 1902. Curieusement, ce texte n'avait jamais été traduit en français. Et les lecteurs français continuent à lire la traduction de la traduction italienne, et non pas la traduction de l'original latin, ce qui nous met tout de même un cran plus proche de l'auteur et de la rédaction.
Donc cela faisait plus d'un siècle que nous vivions sur un malentendu, et ce malentendu, au fond, est dissipé par cet inédit à l'origine des Fioretti, les actes du bienheureux François et de ses compagnons.
Ça fait un siècle, si vous voulez, que seuls les spécialistes avaient accès à ce modèle latin des Fioretti et qu'au fond, le public plus large en était privé. Donc, il nous a semblé utile comme premier avant-goût de notre totum, qui sera publié, je l'espère, à la fin de l'année 2009, il nous a semblé utile de donner la traduction de ce texte. C'est la traduction qui est inédite. Encore une fois, les spécialistes étaient au courant de l'existence du texte depuis son édition latine de 1902. C'est une traduction qui a été réalisée par Armelle Le Héroux, qui est une remarquable traductrice du latin médiéval, un latin qu'elle aime passionnément.
Nous ne l'avons pas dit tout à l'heure, mais le travail de traduction, où nous n'avons pas assez insisté, mais le travail de traduction est énorme, autant au niveau des Fioretti que dans les Vies de Saint-François d'Assise, oui, de Thomas de Celano.
Oui, le volume, l'énorme volume Thomas de Celano, quant à lui, a été majoritairement traduit, presque entièrement traduit par Dominique Poirel. Et voilà donc deux noms qu'il faut retenir et saluer, parce que ce sont eux, en réalité, qui vont donner aux lecteurs français le goût de ces textes. Et ils ont fait en particulier ce travail de décapage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire respecter le latin, retrouver, être au plus proche de sa sonorité, être au plus proche de ses rythmes, ne pas se projeter sur le texte latin, mais laisser le texte latin donner toute sa résonance au lecteur de langue française. Donc, ce texte des Actus, curieusement, j'ai eu plusieurs fois la réaction depuis la publication du volume, ce texte des Actus paraît extraordinairement frais quand on le lit. Alors, peut-être est-ce le fait qu'il est resté longtemps au frais, mais c'est aussi, je crois, tout le mérite d'Armelle Le Héroux, qui ne s'est pas engagé dans une traduction trop littéraire, mais qui a choisi au contraire une traduction littérale qui restitue la véritable beauté du texte. Et ce François des Fioretti, les compagnons qui l'entourent, me semble extraordinairement vivant grâce à cette nouvelle traduction.
Alors venons-en au contenu même de ces Fioretti. Comment d'abord, dans la forme, se présente-t-il ?
C'est donc une série de chapitres qui commencent et qui se terminent à peu près tous par la même ritournelle, hein, un peu du style « Il était une fois ». D'ailleurs, l'ordre de ces chapitres d'un manuscrit à l'autre peut varier. Donc on voit que c'est une sorte, j'ai parlé des mille et une vies de François et de ses compagnons. Ça pourrait être sans fin. En tout cas, des épisodes se sont certainement ajoutés au fur et à mesure de la rédaction. Nous savons qu'il y a eu au moins deux rédacteurs et peut-être plus. Il y a donc aussi le côté d'une œuvre collective, mais elle vient d'un milieu bien précis qui est celui des spirituels de la marche d'Ancône, c'est-à-dire des frères qui s'étaient réfugiés dans les ermitages de cette région un peu perdue d'Italie parce qu'ils étaient en délicatesse à la fois avec la direction de l'ordre et avec la papauté. Ce sont donc des frères qui veulent conserver et promouvoir le message franciscain dans ce qu'ils estiment être sa pureté originelle et qui le font passer au travers d'un certain nombre d'anecdotes de la vie de François, mais suivi pour une bonne moitié du texte par d'autres anecdotes, soit sur les compagnons contemporains de François, soit sur des personnages tout à fait obscurs qui vivaient dans la marge d'Ancône un siècle plus tard et qui étaient cette fois-ci les compagnons des rédacteurs. Donc en réalité, si vous voulez, l'impression que donnent les actes du bienheureux François, et je crois que le titre n'est pas un hasard, c'est d'être à la fois les évangiles et les actes des apôtres. C'est-à-dire de rejouer l'histoire de l'Église primitive dans le point de départ qui est l'expérience franciscaine, les apôtres que sont les compagnons autour de lui, mais jusqu'aux disciples, un siècle plus tard, les fidèles qui sont réfugiés dans les ermitages de la marge d'Ancône.
C'est très important ce que vous dites, parce que les actes du bienheureux François et de ses compagnons, les actus, il y a une continuité en quelque sorte entre les actes des apôtres et ces fameux actus.
Vous savez, on n'emploie jamais au Moyen-Âge un mot sans savoir pourquoi. Et en général, il n'y a pas une raison, il y en a trois ou quatre. La première, c'est évidemment de nous dire que ce sont les actes qui comptent infiniment plus que les mots. Et l'autre, c'est évidemment une réminiscence biblique, car ces hommes pensent entièrement dans le canevas biblique. Et la réminiscence biblique est celle des actes des apôtres, c'est évident. D'ailleurs, le premier chapitre, et qui est le premier chapitre dans la plupart des manuscrits, commence en disant « Personne n'a imité d'aussi près le Christ que François, il a d'ailleurs eu 12 disciples et l'un même d'entre eux s'est pendu comme Judas. » Ça y est, on est à ce moment-là, si vous voulez, François, l'image de François est entrée dans le discours de la totale conformité de l'identification au Christ, ce que, me semble-t-il, François lui-même n'avait pas souhaité. Dans son humilité, il ne se serait jamais comparé au Christ.
Oui, jusqu'au stigmate, au fond, de la fin de sa vie.
Alors, les stigmates de la fin de sa vie, certes, elles ont été exploitées dans le sens de la conformité. Je crois d'ailleurs que ça n'est pas du tout une reconstruction, mais que François avait bel et bien à la fin de sa vie des plaies aux mains, aux pieds et aux côtés. Ça me semble un fait que les historiens peuvent établir, comme on établit la date d'une bataille. Un autre problème serait la manière dont ces stigmates sont arrivés à François, l'interprétation qu'il convient d'y donner. Mais je pense que François portait ces signes. Pour lui, c'est évidemment la volonté d'être au plus près du Christ, mais non pas de se substituer au Christ. Or, si vous voulez, les spirituels de la marche d'Ancône, les auteurs collectifs des actes qui deviendront les Fioretti, ont tendance, eux, à franchir le pas et à faire de François un nouveau Christ. Or, François n'était qu'un indicateur du Christ, prêt à se retirer constamment devant celui qu'il considérait comme son maître.
Mais alors, est-ce que saint François n'est pas, au fond, aux marges, parce que il y a dans cette continuité, vous disiez tout à l'heure qu'au Moyen-Âge, on n'utilise pas un terme comme cela, par hasard, les actes, il y a une continuité entre les actes des apôtres et ces fameux actus. Est-ce une volonté de revenir en quelque sorte à une église primitive? Et j'insiste sur le terme de revenir, parce que au fond, n'y aurait-il pas une insatisfaction de l'ordre et de l'église telle qu'elle était au XIIe siècle et telle qu'elle se présentait à saint François, qui l'a amené à faire autre chose, ceci dans un cadre malgré tout d'obéissance, puisqu'il était, reconnu sans problème par l'autorité pontificale.
Alors, oui, vous êtes vraiment au cœur du problème. Disons que l'expérience de François, en ce qu'elle est représentation, rendre de nouveau présent, en ce qu'elle est représentation de l'histoire même de la chrétienté, dévoile bien le problème de fond du Moyen-Âge. C'est-à-dire que le Moyen-Âge occidental est totalement chrétien, il a une référence absolue qui est le Christ, mais en même temps, vivre l'Évangile à la lettre, quotidiennement et en société, c'est une entreprise qui est tout sauf facile. Donc, cette tension que François exacerbe, elle est présente dans tout le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge n'est qu'une perpétuelle réforme, un perpétuel retour aux origines, une perpétuelle renaissance. Lorsque les médiévistes se mettent à compter les renaissances du Moyen-Âge, ils en arrivent à 10, 12, jusqu'à la dernière, qui est la grande renaissance. L'ultime renaissance, celle que nous appelons la renaissance humaniste, n'est jamais que le dernier des mouvements de renaissance du Moyen-Âge. Et dans tous les cas, vous noterez qu'il s'agit d'un retour aux sources, et parmi ces sources de manière prioritaire, à la Bible, et dans la Bible, à l'Évangile.
C'est le sens, en vous écoutant, je pense au discours de Benoît XVI au Bernardin, la recherche de Dieu.
Oui, je ne parlais pas tout à fait de cela. Moi, je vois les choses en historien. Hein. Et en historien, je suis frappé de voir que ce que l'on appellerait l'idéologie dominante du Moyen-Âge, pour employer des termes un peu lourds d'autrefois, l'idéologie dominante du Moyen-Âge, le christianisme, n'est pas vraiment propre à dicter une conduite sociale dans tous ses aspects. Et qu'au contraire, il y a dans l'Évangile une capacité, une potentialité de remise en cause permanente des acquis. Je n'en fais pas du tout pour autant un discours révolutionnaire. Je dirais que c'est un discours de l'incertitude et d'une certaine manière de l'insatisfaction. C'est un discours qui donne plus de questions que de réponses. Et mettre ce discours au centre d'une construction sociale, comme de fait cela a été le cas à partir de l'Antiquité tardive, c'est un défi extraordinaire. Et le mérite d'un personnage comme François d'Assise, mais il ne serait pas seul dans son genre, et au fond la question qui, quant à moi, m'intéresse, c'est de voir cette inadéquation qui, en même temps, est la force motrice de cet Occident chrétien.
Un autre point important, c'est, nous évoquions ou essayons de savoir si Saint François était un théologien, un peu comme on l'entend. Et pourtant, à la lecture des actes, les actes donc du bienheureux François et de ses compagnons, on a l'impression que l'acte, précisément, est plus important que la parole.
Bien sûr, il le dit d'ailleurs dans ses écrits. Il le dit d'ailleurs dans ses écrits. Il condamne ceux qui se parent des actes des autres par leurs paroles, sans pour autant pratiquer ces mêmes actes. Bien sûr, c'est un homme du geste, François. Nous évoquions tout à l'heure la dénudation devant l'évêque. Sa prédication était extraordinairement gestuelle. Et il faut imaginer qu'il va de cité italienne en cité italienne. Ce sont à ce moment-là de petites cités. Mais il y a une place. Et il arrive sur la place. Et là, c'est le théâtre qui débute. François est non seulement un des créateurs de la littérature italienne, mais c'est un des inventeurs du théâtre italien, de la sacra rappresentazione, c'est-à-dire de la représentation sacrée, du fait de faire de nouveau présent le message du Christ. Et j'évoquais tout à l'heure le chant, la danse, le geste. Voilà, François, à certains moments, prenait un morceau de bois, nous dit un de ses biographes, c'est encore Thomas de Celano, mais dans la Vita Secunda, cette fois-ci, et puis avec un autre morceau, il le raclait comme une vielle, et il en sortait, il faisait sortir de lui-même un son français, nous dit-on, et il finissait par danser. Et il dit à ses frères, vous aussi, vous devez être des jongleurs du Seigneur. Voilà, c'est donc un homme du geste. Et c'est un homme du geste et de l'acte qui compte. Lorsqu'il donne un manteau, ses hagiographes le font remarquer, il n'en donne pas la moitié comme Saint-Martin. Il donne la totalité du manteau, il ne garde rien pour lui.
Ouais. C'est très intéressant de voir, au fond, le pluralisme des courants, puisqu'il y aura des héritiers de Saint-François. On parlera de Duinscott, notamment, et on a un peu tendance à opposer Duinscott à ce qui sera plus tard le thomisme, à Saint-Thomas. On peut parler de franciscanisme ?
Le mot n'est pas médiéval, à coup sûr. Les frères eux-mêmes n'étaient pas appelés franciscains, c'était les mineurs. Et là encore, c'était la volonté de François de les désigner comme les moindres. Ça serait la meilleure traduction française, les plus petits que, en opposition aux majeurs. Il y a, je crois, une conscience franciscaine, malgré la diversité des sensibilités, malgré parfois des oppositions extrêmement dures à l'intérieur de l'ordre, qui vont jusqu'à réclamer des interventions pontificales sévères, des condamnations. Il y a, je crois, une conscience commune franciscaine, dans la théologie, dans l'histoire, dans la prédication, dans l'art. Et cette conscience, c'est François. D'où l'importance du personnage, parce que c'est lui qui est à l'origine du mouvement. La diversité des interprétations de son message a produit un éclatement du mouvement qui était sorti de lui, mais en même temps, il est la seule garantie de l'unité. Donc, François est un des rares personnages qui soit cité comme tel dans la construction théologique de Bonaventure. Si vous prenez Thomas d'Aquin, qui est strictement contemporain de Bonaventure, vous ne le verrez pas citer Saint-Dominique de la même manière. François est cité à plusieurs reprises dans l'œuvre de Bonaventure, qui devrait être de la pure spéculation. Or, il intervient. Il y a cette force, si vous voulez, d'incarnation, de réincarnation dans ce petit bout d'homme, qui est le véritable ciment de l'ordre, et qui en même temps le redivise. Donc l'histoire de l'ordre franciscain va être une histoire constante de division, de réunification, d'occasions manquées, moyennant quoi ça reste aujourd'hui le premier ordre religieux en nombre dans le monde. Donc l'échec n'est pas total.
Alors justement, il y aura d'ailleurs après la mort de Saint François des franciscains ou des mineurs qui ne sauront pas justement ne pas franchir les limites que s'était donné dans son œuvre et dans son action et dans ses mots Saint François. Et il y aura certains qui tomberont dans l'hérésie et qui seront condamnés comme tels. Nous arrivons au terme de cette émission, Jacques Dallarin. Je souhaiterais tout simplement vous poser, je sais bien que vous avez un regard d'historien, mais je voudrais vous poser une question précisément actuelle. Comment concevez-vous l'apport d'un tel texte aujourd'hui, au-delà de votre travail d'historien? Vous dites que l'ordre franciscain, les mineurs, les clarisses, puisque nous n'avons pas parlé de clercs, mais clercs qui étaient proches de saint François, comment ces ordres peuvent encore agir aujourd'hui à travers cette spiritualité franciscaine?
Vous savez, oui, j'ai...
Quelle postérité pour l'œuvre de saint François, au fond?
Oui. Oui, d'abord, la postérité, c'est celle de tous ceux qui se réclament de lui. Les historiens n'ont aucun monopole en la matière. Le travail des historiens, c'est de préparer du matériau qu'ils donnent à lire à leurs contemporains. Ça n'est rien d'autre que cela. Et en général, les historiens se retiennent de l'anachronisme. Donc, ma première réaction serait de réserve pour vous répondre. En même temps, l'histoire est un anachronisme, puisque du XXIe siècle, nous sommes en train de parler d'un personnage qui a vécu il y a plus de 800 ans. Donc l'histoire est un gigantesque anachronisme. Et bien évidemment, ces textes, quand nous les lisons, ils nous parlent. Et si nous souhaitons, avec toute la rigueur de la méthode historique, les mettre à la disposition d'un plus large public, c'est parce que nous pensons qu'ils ont encore quelque chose à dire. Que vous dire? Lorsque François dit, par exemple, que c'est « Sœur, notre mère, la terre, qui nous sustente et nous gouverne » dans le cantique de Frère Soleil, ne croyez-vous pas que l'idée d'une terre qui gouverne les hommes, et non pas des hommes qui gouvernent la terre, ne croyez-vous pas que cette idée est utile et qu'elle est d'une certaine actualité? Lorsque François définit le gouvernement par la figure de la mère, par le personnage du serviteur, lorsqu'il parle d'un gouvernement de service à l'opposé d'un gouvernement de domination, ne croyez-vous pas que cela puisse avoir une certaine actualité? Et lorsqu'enfin, il dit que l'argent, en latin dans le texte, c'est de la merde, ça peut encore aujourd'hui parler à l'imagination. En tout cas, rappeler que ça n'est pas l'unique valeur après laquelle les hommes ont à courir.
Eh bien, Jacques Dallarin, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, donc, avant l'arrivée du totum de 3000 pages à la fin de l'année, nous l'espérons, ces petits cailloux que vous avez présentés, les actes du bienheureux François et de ses compagnons à l'origine des Fioretti dans la collection Les sources franciscaines aux éditions du Cerf et aux éditions franciscaines et dans la même collection et chez le même éditeur, Les vies de saint François d'Assise, de Thomas de Celano, les cinq vies de saint François. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Jacques Dallarin, et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.